Si vous avez votre Bible, votre application, votre cellulaire, quoi que ce soit, que tout ce qui respire aille au psaume 150, s'il vous plaît. Par les moyens que vous pourrez, ça peut être sur au-dessus de l'épaule de votre voisin. Il y aura également ça sur l'écran. Mais je veux juste peut-être introduire un petit peu ce psaume-là qui est le dernier, le tout dernier du grand livre des psaumes. Les psaumes, c'est 150 chapitres, et là, on va voir le 150e ensemble. Et si vous vous rappelez, il y a de ça deux semaines, je vous ai parlé que le psaume 118 faisait partie d'un Hallel, un Alléluia. Eh bien là, on est dans le Hallel final, dans cette espèce de recueil qui est comme un texte qui est chanté en public. Et là, c'est comme la même chose que le 118, c'était comme le point culminant du Hallel égyptien. Ben là, on est dans le point culminant du Hallel final, OK? Bon, si vous retenez pas le nom, c'est pas bien grave, c'est pas nécessaire, mais c'est juste vous partager aussi que ces psaumes-là ont été placés dans un ordre particulier, et lorsqu'on le comprend, on est capable d'imaginer qu'est-ce que ça peut être un peuple qui passe d'un texte à l'autre en le chantant de façon publique, et comment ça peut prendre un point culminant jusqu'au psaume 150 qu'on va voir ce matin. Alors, ce psaume-là nous explique le pourquoi, le comment, le avec quoi et qui devrait louer l'Éternel. OK. Je sens un enthousiasme débordant, c'est génial, j'adore ça. OK? Non, mais c'est un psaume très court, mais très dense, qui va nous parler de la louange, qui va nous parler de chanter au Seigneur, qui va nous parler de célébrer Jésus. Et là, vous l'avez lu, vous savez ce qui s'en vient, peut-être parce que ce n'était pas long, vous avez vu sur votre application, on va le lire tout de suite, ou on va le lire sur l'écran. Mais je dirais que c'est même un psaume pentecôtiste. Puis on va voir pourquoi. Mais au-delà de tout ça, ce psaume-là nous révèle que la louange est essentielle. La louange est essentielle à tout être humain. À tout être qui respire, la louange est essentielle, fondamentale, et finalement, c'est le point culminant de l'enseignement de tous les psaumes. Alors peut-être vous dites des fois, « Veux-tu bien me dire pourquoi dans leurs églises, ils chantent tout le temps, eux autres? » Il me semble que dans d'autres églises, ils chantent moins. Pourquoi est-ce qu'ici, on chante, puis on chante souvent? Le psaume est une réponse à vos prières. Ça va être une explication au pourquoi est-ce que à chaque dimanche, il y a des équipes qui pratiquent pendant la semaine, il y a des leaders de louange qui prient, qui cherchent la face de Dieu pour choisir les bons chants, pour que non seulement eux chantent, mais pour que tous ceux qui seront ici chantent de tout cœur au Seigneur. Puis vous savez quoi? Notre but, c'est pas de créer une chorale. Notre but, c'est qu'on loue Jésus. Et c'est le cœur de l'équipe de louange, justement, qui se prépare. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du psaume qui va dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, hey, on va le lire ensemble. Ça commence par un ordre. Non, un impératif, hein? Une suggestion forte. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue. Dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et là, on recommence avec la même première phrase. Louez l'Éternel. Louer l'Éternel. Et là, il y a ce désir de dire que tout ce qui est en moi puisse louer l'Éternel. Et on sent le psalmiste qui lâche pas, hein. Il va pas juste dire louer l'Éternel, fin du psaume. Non, non, non. Louez-le. Louez-le à quel endroit? Louez-le partout. Louez-le même dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le avec les instruments. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça signifie, ces instruments-là. J'ai pas pris de cours de harpe. Inquiétez-vous pas pour ce matin. OK? Mais louez-le avec tout ce que vous avez, finalement. Mais louez-le, louez-le, louez l'Éternel. Et ce qu'on va faire, et ce que j'ai pris l'habitude de faire dans cette série-là, et puis chacun a une approche différente, mais j'aime regarder au passage et voir qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers le contexte, à travers la situation des Juifs. Comment est-ce qu'on peut comprendre un psaume comme celui-là? Alors, le verset 1 va dire, c'est vraiment le thème du psaume. Si on peut résumer le psaume en trois mots, c'est « louer l'Éternel ». C'est vraiment le but, le focus. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est une sandwich. Hein? Ça commence par louer l'Éternel, ça finit par louer l'Éternel. Le but du milieu, c'est de... Hey, vous êtes fort, vous êtes très fort. Bravo, bravo. Et on peut s'applaudir, bravo. Hein? On a compris le psaume. Mais le but de ce psaume-là n'est pas de comprendre. Le but de ce psaume-là, c'est de... louer l'Éternel. Hey, vous êtes fort. Hey, j'ai quasiment le goût de vous applaudir encore, mais on va se retenir. On va garder ça pour Jésus, OK? Mais c'est vraiment... Puis l'autre chose qu'on remarque, c'est que quand il va dire « louer l'Éternel », il va pas juste dire « toi, loue l'Éternel ». Il va dire « louer l'Éternel ». De la même façon que le repas du Seigneur n'est pas fait pour être pris tout seul, il est fait pour être partagé. Lorsque vous allez partager cette coupe, ce pain, c'est une question d'être ensemble. Et encore une fois, dans ces hallels-là que je vous parle depuis quelques semaines, c'est l'idée d'un appel à une louange collective, l'idée d'un appel à « on loue ensemble, on le fait, on y va, on le fait ». Non pas, c'est pas méditatif individuel, mais c'est quelque chose de collectif. Il y a quelque chose d'extraordinaire d'en prendre ses écouteurs, se mettre une playlist et chanter à tue-tête, pas dans son char, mais dans sa maison en passant la balayeuse. Bon, il y en a qui font ça? Allez, je vous démasque. OK, pas beaucoup. Il y a quelque chose dans le fait de louer le Seigneur avec ses écouteurs et être dans sa bulle, être dans un temps de louange, c'est extraordinaire. Mais je crois que c'est encore plus extraordinaire de faire la même chose avec des frères et des sœurs autour de nous. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on le fait chaque semaine et qu'on va continuer de le faire encore chaque semaine, parce que c'est vraiment, mais vraiment important. Alors, notre psaume continue avec « à quel endroit le louer ?» Et ça va dire « on va louer Dieu dans son sanctuaire ». Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Mais lorsqu'on parle d'un sanctuaire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein, ça veut dire que c'est comme si c'était un lieu sanctifié, un lieu... ça pourrait être le temple sur terre à l'époque, mais ça pourrait être aussi vu comme le temple dans le ciel. En même temps, le ciel et la terre peuvent être un, sa gloire est partout. Faut comprendre que si Dieu est à quelque part, ça devient un lieu saint. Là où Dieu est présent, ça devient automatiquement un lieu sanctifié, un sanctuaire. Il y a des fois où est-ce que, comme croyants, on a vu les bâtiments comme étant les lieux saints. Puis on se dit, ah ben je vais aller dans le lieu saint. Puis c'est bien parce que, oui, quand Dieu est présent, c'est un lieu saint. Mais savez-vous quoi? Votre chambre, votre salon, votre voiture, même avec le poisson en arrière, peut être un lieu sanctifié parce que Jésus y est. Il faut arrêter de voir juste des lieux saints et voir la présence de Dieu qui sanctifie le lieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que quand on loue, on n'a pas besoin de toujours louer juste ici, on peut louer partout parce que la présence de Dieu remplit tout l'univers. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est comme si c'est ambigu ici de savoir est-ce que c'est vraiment du temple terrestre, est-ce que c'était du temple dans le ciel, mais on peut au moins dire que Dieu est saint et sa présence crée un lieu, un espace saint et on peut le louer à cet endroit-là. Amen. Sinon, ça va nous parler de l'étendue céleste et on va faire un peu de cosmologie juive. Oh non, s'il te plaît, non. Vous allez voir, c'est super simple, c'est drôle. Parce que nous, avec les avancées technologiques, avec les télescopes qui deviennent de plus en plus précis, qui voient galaxie après galaxie, on n'a pas la même perspective que si vous aviez jamais vu ça, vous étiez dehors avec un feu à regarder l'univers. Et lorsque Genèse va parler qu'il y a une étendue d'eau entre les eaux pour les séparer les uns des autres, pour les Juifs, il y a comme un genre de dôme qui recouvre, qui est comme dans le ciel, c'est comme un dôme. Et sur ce dôme-là est assis Dieu qui est sur son trône. Est-ce que vous comprenez un peu l'image? Et puis, à quelque part, il va y avoir cette idée de louer-le dans l'étendue céleste, au-delà du dôme, où éclate sa puissance. Alors même les Juifs voyaient que Dieu était présent au-delà même des cieux, plus loin de ce que leurs yeux pouvaient voir. Il y avait cette idée-là que Dieu était là et il agissait avec puissance. Bon, là, nous autres, on est là avec nos télescopes. Et croyez-moi, on a encore plus de raisons de croire que Dieu agit avec puissance dans l'étendue céleste. Parce que lorsqu'on voit l'étendue de la création, on ne peut faire autre chose que de dire « Wow! Incroyable! » C'est exponentiellement énorme ou infini. Alors, le psalmiste est en train de dire, avec ses mots, avec sa façon de comprendre l'univers, « Wow! Il faut le louer dans l'étendue céleste bien au-delà où éclate sa puissance. » On se comprend que le lieu qui est en train de parler, c'est un lieu, c'est partout, hein? On loue dans l'étendue, on loue sur la terre, on loue dans le ciel, on loue partout. Et il y a cette idée que la louange se fait sur la terre, la louange se fait dans le ciel, pour ce que Dieu fait sur la terre comme pour ce qu'il fait dans le ciel. Vous comprenez un peu? Dieu agit partout. Dieu est puissant, mérite d'être loué infiniment partout, partout. Alors la question c'est, à quel endroit Dieu ne devrait-il pas être loué? La réponse à ça, c'est nulle part. Dieu mérite d'être loué partout. Et le psalmiste va dire, louez-le partout. Louez-le à la grandeur de l'univers. Ensuite, il va continuer avec, là c'est l'endroit, fait que c'est quand même pas pire, hein? On n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que mon GPS me place à un endroit où est-ce que je peux louer? Ben, en fait, ton GPS peut te dire ce que tu veux, mais cet endroit-là sera toujours un endroit où est-ce que Dieu mérite d'être loué. Ça va? Fait qu'on peut faire ça partout, même quand tu passes ta balayeuse, c'est bien. Il va dire pourquoi, le psalmiste va répondre à pourquoi est-ce qu'on devrait le louer, c'est le verset d'après, verset 2. Je pense qu'on l'a à l'écran, c'est supposé, si j'ai bien fait ma job, oui. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Et là, c'est là que de savoir que c'est le psaume 150 devient pertinent. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le dernier point des psaumes. Et l'idée de son extraordinaire façon d'agir, c'est comme sa façon puissante d'intervenir. En anglais, « mighty acts », les actions puissantes de Dieu. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer le nombre d'actions puissantes qu'on peut recenser entre le psaume 1 et le psaume 149? Le nombre de choses qui se sont passées. Alors, hey, on a fait un bref survol hein, pendant l'été, mais à plusieurs endroits, on voit des actions où est-ce que Dieu délivre, Dieu sauve, où est-ce que Dieu rappelle qu'est-ce qu'il a fait en Égypte, où est-ce que Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Si on faisait le recensement de tous les actes puissants juste dans les psaumes, le psalmiste va dire à la fin, « Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. » Et puis, il va également dire par l'immensité de sa grandeur. Alors, c'est comme s'il y a quelque chose de beau dans ce psaume-là parce que c'est condensé puis ça dit tout. Il va, tu sais, des fois dans nos vies, on est un peu comme ça, hein? On va louer Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui était vraiment malade, que ça ne marchait pas son affaire, Dieu le délivre, il va louer Dieu. « Seigneur, je te loue parce que tu m'as guéri, je te loue parce que tu m'as relevé, je te loue parce que tu m'as redonné des forces. » Est-ce que c'est bien de faire ça? Oui, excellent. Est-ce qu'il faut que ça se limite à ça? Non, non, parce que Dieu n'est pas juste digne d'être adoré pour ce qu'il fait, mais Dieu est digne d'être adoré pour ce qu'il est. Et c'est en train, ce qu'il est en train de dire, le psalmiste, il ne se limite pas aux actions puissantes de Dieu. Il va continuer en disant, louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Et si on faisait une étude du psaume 1 au psaume 149 et qu'on relevait toutes les traces du caractère de Dieu à travers les 149 psaumes précédents, vous savez quoi? Il y en aurait une fichue grande liste. Et c'est pour ça que le psalmiste peut le dire avec assurance, louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Et là, je me suis juste amusé à prendre quelques psaumes qu'on a effleurés pendant notre série. On pourrait faire 150 messages sur les 150 psaumes, ce serait 3 ans. Quand même, quand même. Mais on l'a effleuré, mais à travers tout ça, on a appris que l'Éternel était notre berger, que l'Éternel était une tour forte où l'on peut se réfugier, que l'Éternel était la sécurité dans les demeures, que l'Éternel était notre trésor, un trésor. On a appris que les instructions de l'Éternel étaient parfaites. On a appris que l'Éternel sera toujours le rocher de notre cœur. On a appris que les œuvres de l'Éternel sont admirables. On a appris que l'Éternel pardonne les péchés et heureux ceux dont les transgressions ont été enlevées. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel est bon. Là, si vous en souvenez, oui, sa bonté dure éternellement. Et là, ça, c'est juste les quelques psaumes qu'on a effleurés. Si on allait plus loin que ça, je peux vous dire que la liste pourrait être longue comme ça. Mais le psalmiste va le dire en une phrase simple. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le. En fait, il y a un chant qu'on chante, bon, on chante peut-être un peu moins ces temps-ci, ça s'appelle « 10 000 raisons ». Et dans le chant, c'est l'idée de « on a 10 000 raisons de louer notre Dieu ». Vous savez quoi? Je pense qu'ils ont mal calculé. Ça se peut que ça soit plus de raisons que ça encore. Mais notre cerveau a de la misère à se rendre là. Notre cerveau a de la misère à compter jusque-là ou à faire les... Mais franchement... On a toutes les raisons de louer l'Éternel pour, oui, à la fois ce qu'il fait, mais bien plus pour ce qu'il est. Alors, il va continuer, il va dire, bien, maintenant que vous savez à quel endroit le louer, maintenant que vous savez pourquoi le louer, bien, je vais vous donner quelques instructions sur comment le louer. Et là, c'est là qu'on arrive avec les instruments. Alors, je n'ai pas sorti l'étendue des instruments, mais ça va parler de la trompette, du luth, la harpe, le tambourin, les danses, des instruments à cordes, la flûte, des cymbales. Et c'est spécial parce que oui, on a une liste d'instruments, mais on a également une façon de les jouer. Je ne sais pas si vous avez remarqué des adjectifs comme retentissant, comme sonore. Vous savez, la louange, je ne suis pas une berceuse pour les enfants. C'est quelque chose de vivant. Amen. C'est quelque chose de vivant parce que Dieu est vivant. Et puis, dans ce psaume-là, c'est dur de justifier une louange genre, tu sais, genre pour s'endormir. Là. Est-ce que c'est bon d'avoir un morceau instrumental pour s'endormir sur une traque de Chris Tomlin? Pas de problème avec ça. Mais lorsqu'on voit le psalmiste, comment il nous dit de louer, mais on se rend compte qu'il y a de la vie dans l'affaire. Il y a une façon de louer avec sa voix, avec des danses, avec du bruit, avec du son. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, parce que là, on voit ça, puis nous autres, on se dit, bah, c'est une belle énumération d'instruments de musique, mais tu sais, nous autres, on ne joue plus de harpe, on ne joue plus de tambourin, hein, on ne joue plus de ci ou on ne joue plus de ça. Mais j'aimerais vous faire comprendre que les instruments qui sont là veulent dire quelque chose. Parce que ces instruments-là sont utilisés par des personnes bien différentes lorsqu'on étudie un petit peu l'Ancien Testament. Par exemple, la trompette, ben c'est pas une trompette avec les trois, là, c'est pas du jazz là, du sud des États-Unis. Ok? En fait, la trompette, c'est une corne de bouc, c'est un chauffard. Et ce qui se passe, c'est que ce chauffard-là ou cette trompette-là, il y en avait aussi qui étaient faites en argent, donc c'était pas juste des cornes, mais il y avait la majorité, c'était des cornes, mais ce qu'on comprend, c'est que cet instrument-là était principalement utilisé par les prêtres. C'était quelque chose qui était réservé à ceux de la famille d'Aaron et suivants, et on le voit à l'écran. Il y a différents endroits, comme par exemple dans Josué 6, c'est l'idée à Jéricho. Hein? Quand ils font le tour, ils vont dire « Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. » Là, je me demande pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils sonneraient de la trompette sept fois. Parce qu'il y a du sept partout là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était les prêtres qui avaient cet instrument-là et c'était pas, on n'avait pas genre 2 millions de trompettes puis que tout le monde la faisait. C'était les prêtres qui la faisaient résonner. Alors peut-être que vous êtes déjà dit dans l'histoire de Jéricho, les trompettes étaient tellement fortes que les murs se sont effondrés. Bien, s'il y a juste sept trompettes, c'était plus que le son qui a fait tomber les murailles. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu qui les a fait tomber. Bon. On le voit aussi dans Néhémie. On le voit, puis j'attire votre attention sur 1 Chronique 15, parce qu'on va le voir avec un autre type d'instrument. Ça veut dire les prêtres Shebania, Josaphat, Nathaniel, Amasai, Zacharie, puis là, on fait notre prononciation de la journée. Sonnait de la trompette devant l'arche de Dieu. Et il y avait cette idée que la trompette était utilisée à des moments particuliers, puis qui s'était utilisé par des gens qui étaient les prêtres. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que si on prend un deuxième type d'instrument, c'est que la harpe, le luth et les cymbales étaient principalement utilisés par les Lévites. Les Lévites, eux, c'était le groupe qui était désigné pour louer l'Éternel ou amener le peuple dans une louange. Alors, on le voit même dans 1 Chronique. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans 1 Chronique 15, encore une fois, on voit que quand ils transportent l'Arche de l'Alliance, ça veut dire, puis David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères musiciens avec leurs instruments de musique. Ceux qui pratiquaient, là, ceux qui s'exerçaient, ceux qui étaient bons, là, ben, il parlait des luttes, des harpes, des cymbales, qu'il devait faire retentir de son éclatant signe de réjouissance. Et là, il y a d'autres textes que je ne vous lis pas, mais que ces instruments-là étaient principalement pour les Lévites. Maintenant, là, il en reste d'autres pour les autres? Ben oui, il en reste d'autres. C'est la beauté de la chose. Des tambourins, les flûtes, les instruments à cordes, c'était des instruments qui étaient beaucoup plus utilisés par le peuple. C'était des instruments qu'on appelle laïcs, c'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de faire partie d'une famille spéciale en Israël. Tout le monde pouvait les utiliser. D'ailleurs, même les enfants, je pense que c'est dans Ézéchiel, hey, on vous a joué de l'instrument, on vous a joué de la flûte, vous n'êtes pas lamenté, vous n'avez pas chanté avec nous autres. Et il y a cette idée-là que ces instruments-là étaient un peu pour tout le monde. Et on le voit dans la prochaine diapo, dans 1 Samuel. Après que David eut tué le Philistin, les femmes vont sortir à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient, dansaient au son des tambourins, des triangles, elles poussaient des cris de joie. Alors, on voit que ce n'était pas réservé, ces instruments-là, à différentes personnes particulières. Là, vous dites, Jean-Fred, pourquoi tu nous dis tout ça? C'est quoi le rapport? Peut-être vous posez la question, mais je m'en vais à quelque part avec ça, OK? Parce que c'est super important. En fait, comprenez-moi bien, là, voici comment j'interprète tout ça. C'est que tous font partie de la louange. La louange n'est pas un ministère du stage. La louange est pour tout le monde. OK? Bon, maintenant, si vous n'avez jamais joué de guitare, de grâce, épargnez aux autres votre manque de connaissances, OK, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas quelqu'un sur l'estrade qui ne joue pas de guitare. En y mettant une guitare dans les mains. L'idée d'une démocratisation de la louange, c'est pas de dire « Ah, ben maintenant, tu sais pas jouer, mais vas-y, joue quand même. » Non! En fait, c'est de dire que la louange, c'est pas un concert, c'est pas un show, c'est pas quelque chose que tu regardes, c'est quelque chose dans lequel tu participes et tous sont les bienvenus. Il y a quelqu'un qui disait « Chante vrai, chante faux, mais chante pour l'agneau. » Le but, c'est pas ton thème de voix, le but, c'est que tu sois actif quand on loue. Parce que l'Écriture est claire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et il faut faire très, très attention. Très, très attention de limiter la louange à ceux qui jouent d'un instrument devant. L'objectif de l'équipe de louange, c'est que chacun de vous loue le Seigneur. C'est vraiment le but. C'est vraiment l'objectif. Alors, le but, ce n'est pas de faire une performance ou quelque chose. Loin de ça, loin de ça. Le but, c'est que chacun puisse entrer dans cette louange-là où chacun amène son instrument, aussi imparfait soit-il. Okay? Peut-être qu'il y a des gens qui chantent comme un gazou. Là. Ben, regarde, ce gazou-là est important dans l'orchestre. Okay? Là, il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi un gazou ici. Je ne vous l'expliquerai pas. Okay? Un instrument un peu enfantin là, puis que ça ne sonne pas terrible. Là. Bon, pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de ce terme-là, j'essaie de faire une interprétation, mais je ne me suis pas préparé. Fait qu'on va laisser faire, on n'ira pas plus loin que ça. Mais l'idée, c'est que tous les instruments se rassemblent pour louer l'Éternel. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire une suggestion. La suggestion est la suivante. Tu sais, des fois, l'Église, ça ressemble à un karaoké. Tu sais, il y a les paroles, puis il manque juste le petit point qui continue là, pour dire à quel endroit on est rendu. Là. Les paroles sont là, vous savez pourquoi? Bien, pour que vous puissiez suivre. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas un esclave, ça. Vous n'êtes pas obligé de regarder ça. Vous n'êtes pas obligé de regarder les paroles, non? Vous pouvez aussi vous fermer les yeux puis chanter des paroles que vous voulez bien, même si ce n'est pas les paroles du chant. Vous pouvez faire ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas de dire, « Hey, tout le monde chante super bien, la bonne note. » Non! L'important, c'est que tout le monde loue avec ce qui est le plus important. Et le plus important, 12 pouces en bas des yeux, c'est le cœur. C'est le cœur. Et moi, je vous encourage et je vous donne une expérience personnelle. Parfois, les meilleurs temps de louange que j'ai, c'est lorsque je chante entre les tunes. Fait que, vous savez, le moment où est-ce que il y a un moment instrumental, pour moi, c'est comme, enfin, le karaoké fini, je peux louer avec ma voix, avec les paroles que je veux. Vous dites, oh, t'es bizarre, toi. Peut-être. Mais en fait, la louange, ce n'est pas juste le karaoké, c'est pas juste les. C'est bien au-delà de ça. Vous êtes dans un champ, et moi, il y a des fois, vous savez quoi? Ma louange, là, c'était de me fermer les yeux, d'ouvrir mes bras comme ça, puis de juste écouter les paroles, et ça me bénissait tellement. Et j'étais en prière dans mon cœur. Mon âme, ce dimanche-là, c'était ma prière. Même s'il n'y avait pas de son qui sortait de ma voix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que... J'essaie d'ouvrir la perspective là, de la louange. Et je veux vous encourager à être de ceux qui louent entre les chants, d'être de ceux qui n'ont pas peur de... Hey, on lève nos bras dans les airs, pourquoi pas? Et on chante au Seigneur, on loue le Seigneur. Comment louer avec tout ce qui est sous notre main? C'est pas juste un groupe qui doit le faire, c'est pas juste le pasteur qui doit louer, c'est pas juste les musiciens qui doivent louer comme étant les Lévites. C'est chacun d'entre nous qui fait partie de cette louange-là qui s'élève au Seigneur. Qui doit le louer? Ben, on a la confirmation dans le verset suivant, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Et là, vous dites, ouais, ben, c'est un peu que tout ce qui respire, c'est facile à dire. Ben, dans ce allèle final, il y a le psaume 148 qui va donner plus de détails. Alors, je vous donne plus de détails sur qu'est-ce que ça veut dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. On l'a à l'écran? Génial, merci. Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, et vous tous, océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. » Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Fait que si même les reptiles ont besoin de louer, je peux te dire que toi aussi, tu y es invité. T'es bienvenu. T'es bienvenu, vraiment. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si vous et moi, on respire aujourd'hui, la seule réponse convenable à la grandeur de Dieu, c'est de louer l'Éternel. C'est une réponse adéquate à qui est Dieu. C'est une réponse adéquate à ce que Dieu accomplit sur la terre comme au ciel. Et je vous disais tantôt que le psaume 150 pouvait même être un psaume important pour les pentecôtistes. Mais en fait, pourquoi je dis ça? C'est que lorsqu'on lit tout ça, on se rend compte que c'est vivant, la louange. Il y a de la vie là-dedans, il y a de l'expression. C'est pas quelque chose à faire comme... C'est pas juste quelque chose à faire du plus profond de son cœur. On est appelé à louer, à élever la voix. On est appelé à le dire de notre bouche. Hein? Ce qu'on fait de ta bouche, le Seigneur Jésus, il y a cette idée-là de ne pas juste garder ça en dedans, mais de le sortir. Et c'est comme je vous disais tantôt, c'est pas juste les musiciens qui sont vivants. Là. C'est tout le monde qui est appelé à être vivant. Et il y a de la place pour une louange expressive. Il y a une louange qui bouge, une louange profonde, une louange faite avec cœur. Et je pense qu'on a besoin de maintenir la vitalité, de revenir à la passion des louanges à Dieu, comme on le voit dans le psaume 150, parce que c'est une bonne réponse. C'est une réponse adéquate à qui est Dieu. C'est une réponse adéquate à l'œuvre extraordinaire de Dieu. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire, « Hey, moi, là, maintenant, là, je suis un introverti profond. Là. Maintenant, tous les dimanches, je vais venir danser en avant. » Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se dénaturer. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce qu'on voit, c'est que de notre expression, il y a quelque chose qui sort de notre bouche. Il y a quelque chose qui sort de qui on est. Quelque chose qui n'est pas juste morne et plate. Quelque chose qui est vivant. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans ce sens-là que je parle de la louange pentecôtiste. Mais l'idée d'une louange pentecôtiste, ce n'est pas de chercher l'émotion ou l'expérience. Parce que souvent, c'est ça qui se passe. Hein? On dit, ah, ben là, c'est juste des émotions, c'est juste une expérience. J'aimerais vous rebrasser les choses pour mettre les choses dans le bon ordre. Parce que oui, si les autres mouvements regardent les pentecôtistes, ils vont dire, hey, eux autres sont énervés pendant la louange. Ils lèvent leurs mains, ils tapent des mains. Il y en a qui dansent, il y en a qui chantent fort. Puis c'est génial. Qui continuent de pouvoir voir ça de l'extérieur. Mais maintenant, certains vont dire, « Ouais, mais ils le font juste pour vivre une émotion. » Et c'est là que c'est pas ça une louange pentecôtiste. En fait, une louange avec saveur pentecôtiste, c'est une louange qui est vivante, mais qui a comme objectif de chercher Dieu. On n'est pas juste là pour dire, OK, on va chanter parce qu'il faut chanter. Non, on veut chercher Dieu, on veut chercher la face de Dieu. On veut chercher vraiment le cœur de Dieu. Alors, c'est comme si la louange, c'est comme un cadeau qu'on offre à Dieu. Des fois, on va dire ça, hein? Reçois ma louange, reçois ce cadeau, ce sacrifice de louange que je vais t'offrir. Alors, des fois, on se demande, ben, OK, mais mon cadeau, est-tu beau, est-tu pas beau, est-tu ci, est-tu ça? Mais j'aimerais vous dire que le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à Dieu, ce n'est pas le timbre de votre voix, parce que Dieu sait que vous faussez anyway. Okay? Ce n'est pas l'harmonie des accords, mais le plus beau cadeau à offrir à Dieu, c'est notre cœur. Et ce cœur-là qui cherche Dieu, ce cœur-là qui veut s'approcher de Dieu, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à Dieu. Et c'est ça l'idée d'une louange pentecôtiste. C'est une louange qui désire s'approcher, qui désire chercher Dieu. Et quand on dit s'approcher, peut-être que ce passage-là vous vient en tête dans Jacques. C'est comme lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et il y a cette idée-là qu'on veut rechercher Dieu et pas juste être là pour « Ah ben, il faut que je chante, fait que je vais faire mon bon chrétien, je vais chanter. » Non, on veut chercher Dieu. Puis vous savez quoi? Quand on cherche Dieu, il y a parfois où est-ce qu'il y a une paix inexplicable qui vient dans notre cœur. Il y a des fois, il y a des émotions qui sont là, puis vous savez quoi? C'est normal. Parce que si Dieu s'approche de toi, il se pourrait que ça touche tes émotions. Ça va? Ça, c'est normal. Maintenant, si on fait juste louer pour chercher l'émotion, c'est là que ça ne marche pas, parce qu'on ne cherche pas Dieu, on cherche l'émotion. On cherche le « feel good experience », on cherche le « ah, ça me fait tellement du bien ». Ah, continue un autre chant parce que ça m'a fait... Non, on est là pour chercher Dieu. Puis quand on cherche Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires. Est-ce que ça se peut qu'après vous êtes approché de Dieu, vous vous sentez bien, tout ça? C'est normal. Pourquoi? Parce que quand on est en présence de Dieu, Dieu révèle son caractère à notre cœur. Je devrais entendre un amen à ça, hein, quand même. Là. Vraiment. Mais c'est juste de mettre les choses au bon endroit. De mettre les choses au bon endroit. Et c'est trop facile que la louange ne devienne qu'un divertissement ou une satisfaction personnelle, un feel-good experience. C'est trop facile, ça. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, et on va le faire dans un instant, hein, vous me voyez venir, on va louer le Seigneur ensemble, on a réservé une plage pour avoir plus de chants à la fin, justement pour pouvoir mettre en pratique ça. Bien, c'est l'idée, hey, est-ce que je cherche Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée même? Et je vous encourage, peut-être si vous ne l'avez pas fait, ou si vous n'avez pas l'habitude de le faire, peut-être de l'essayer, pourquoi pas? C'est d'ailleurs ce qu'on va dire à des gens qui ne sont pas chrétiens. « Hey, et si tu priais? Et si tu t'approchais de Dieu? » Watch bien ce qui va arriver, parce que nous, on sait que quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Donc, on leur suggère ça, mais je vous suggère la même chose. Et si ce matin était un temps pour chercher la face de Dieu? Chercher la face de Dieu. Et je vais même... Moi-même, aller plus loin, je vais vous partager une hypothèse personnelle. Vous en pensez ce que vous voulez, OK? L'hypothèse est la suivante. Je pense que... Hein, là, vous voyez, je pense que, c'est une hypothèse. C'est moi, OK? Mais vous verrez si ça s'applique ou pas. Je pense que les oreilles de Dieu cillent bien plus par un cœur indifférent, détaché, qu'avec une fausse note ou un style de musique différent. Là, vous dites, OK, ciler, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, quand les oreilles, c'est comme... Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont plus sensibles que ça là, dans les oreilles, là, mais il y en a, c'est un bébé qui crie, là, puis c'est comme... Oh! Ça vient de chercher les oreilles. Je recommence. Je crois, je pense que les oreilles de Dieu cillent bien plus par un cœur indifférent, détaché, un cœur détaché, qu'avec une fausse note, une guitare électrique avec de la distorsion ou quelqu'un qui chante tout croche. Parce que vous savez quoi, même si la louange, même si la musique était parfaite, ben, ça se pourrait que ce soit notre cœur qui facilite les oreilles de Dieu et pas l'imperfection de nos instruments. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin? Et d'ailleurs, on a été bon dans les années, dans les dernières décennies, pour essayer de deviner quel était le style de musique préféré de Dieu. Puis là, je vous pose la question. À la lumière du psaume 150, quel est le style préféré de musique de Dieu? Alors, je vous donne des choix, choix de réponse. Country, classique, jazz, rock, hip-hop, celtique, blues, électronique, flamenco. Reggae ou gospel? Quel est le style de musique préféré de Dieu? Si je vous avais posé la question, quel est votre style de musique préféré? Ah là, on n'a pas la même question, hein? On n'a pas les mêmes réponses. Mais on a fait ça aussi avec les instruments. On a regardé la guitare électrique puis on a dit, ça, c'est un instrument du démon. Je ne suis pas ici, mais ça circulait, hein? Puis là, il y a des instruments plus sanctifiés que d'autres. Il y a des instruments mieux que d'autres. C'est comme s'il n'y a pas l'orgue, c'est pas spirituel. S'il n'y a pas de piano, oh, il manque toute l'onction. J'exagère, OK? Je caricature, j'exagère. Mais au final, quand on regarde le psaume 150, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas à propos de tel instrument ou de tel instrument. Ce n'est pas à propos de telle personne ou de tel type de personne qui le jouerait. En fait, c'est le cœur qui est là. C'est le cœur qui dit, hey, moi, je respire. Et ma réponse, je choisis que ma réponse, c'est de louer l'Éternel. Je vais inviter les musiciens à s'approcher à ce moment-ci. Alors, je pense que la louange n'a pas rapport avec un style musical, mais la louange a rapport à Dieu. Hein, grande révélation. La louange n'est pas par rapport à un style musical. La louange, ça a rapport à Dieu. Puis, à quelque part, si tout est centré, focalisé sur Jésus, sur Dieu, ben, je serais d'avis que peu importe le style de musique, si Dieu est le centre, moi, je suis à l'aise. Est-ce que ça veut dire que demain matin, on a un groupe métal qui va nous entretenir dans la louange? C'est pas ce que j'ai dit. Mais vous savez quoi? Nos musiciens auraient le talent de le faire, hein? On serait capable. Mais c'est correct. C'est une question d'habitude, hein? J'essaie juste de vous dire que ce qui est le plus important, c'est le cœur, c'est ça. Puis, une des choses qui m'a vraiment béni du psaume 150, c'est pas le fait que la Bible me donne la permission de jouer du métal, c'est pas ça. N'inquiétez-vous pas. Pas ça du tout. J'en joue pas, puis c'est correct. Le psaume 150 a quelque chose de formidable. C'est que dans le psaume 1 au psaume 149, on voit les états d'âme du psalmiste. On voit des hauts et des bas. On voit des situations catastrophes. On voit des victoires exaltantes. Dans le psaume 150, il n'y a absolument rien de cela. Le psaume 150 se résume à Dieu, Dieu, les instruments pour louer Dieu, l'endroit pour louer Dieu, la façon de louer Dieu et louer Dieu. Comprenez ce que je veux dire? C'est centré sur Dieu. Et si on fait la comparaison entre le psaume 1, qui est le premier, puis le psaume 150, psaume 1, hein, « Assieds-toi pas avec les méchants, ne marche pas avec les moqueurs, si, ça », c'est comme une bonne instruction pour la vie. Mais au final, la vie nous amène toutes sortes de hauts et de bas. Mais malgré ces hauts et ces bas-là, le psaume 150 termine en parlant de qui? De Dieu et de la nécessité de chaque être humain de louer Dieu. Tout est à propos de Dieu. La louange, c'est Dieu. Dieu est le sujet, l'objet de notre louange. Dieu est la récompense de notre louange. Dieu est ce qui sort de notre bouche. C'est lui qui est le centre. C'est pas la musique. C'est pas le style. C'est pas les instruments. C'est pas est-ce que tu as ton titre de musicien professionnel ou pas. Non. La louange est centrée sur Dieu. Dieu qui est le centre. Je vous partage une citation d'un certain M. Human qui va dire la chose suivante. Le Créateur Dieu d'Israël doit être loué de façon universelle au ciel et sur la terre, à l'intérieur comme à l'extérieur du temple et du culte, dans le cosmos et dans l'histoire. Son immense grandeur surpasse les concepts d'espace et de temps humain. À travers ses actes puissants, il s'est révélé dans le cosmos et dans l'histoire comme l'incomparable Dieu roi. Notre louange est focussée sur Dieu. Et je vais terminer avec ceci. C'est beau de dire que notre louange, tout est focussé sur Dieu, mais là, est-ce que le psaume 150 efface les 149 autres? Les 149 autres où il y a des situations vraiment tough qui arrivent, où il y a des remises en question, toutes sortes de remises en question. Et pasteur Dominique nous en a partagé une dans un psaume. Hey, je voyais le sort des moqueurs, tout ça, tout allait bien pour eux autres. Puis je me suis dit, à quoi ça sert de servir l'Éternel? Des remises en question, des David qui sont sur le bord de la mort, des gens qui luttent avec la dépression, et on le voit à travers les psaumes. Puis là, est-ce que ce psaume 150-là, est-ce qu'il vient annuler toutes les autres en disant, « Oublie ce que tu as derrière, maintenant, loue l'Éternel. » C'est une grande question, n'est-ce pas? Parce que des fois, on a ce réflexe-là, on arrive à l'église et on dit, « Seigneur, quand je vais rentrer dans l'auditorium, je vais laisser le pack-sac dehors. » Avec tous mes problèmes, tous mes soucis, toutes mes histoires, je laisse ça dehors, puis je viens te louer comme un cœur neuf qui n'a jamais vécu rien. Parce que je vais être vraiment focusé sur toi. Est-ce que c'est une intention noble? Absolument. J'aimerais vous dire la chose suivante. À travers les 149 premiers psaumes, on voit qu'il y a des cicatrices, il y a des histoires, il y a des coches mal taillées. Et il y en aura pour chacune de nos vies. Et le psaume 150 n'est pas une négation de tout ça, mais une invitation à louer l'Éternel en amenant nos cicatrices avec nous. En amenant ces cicatrices-là avec nous, en amenant ces situations-là avec nous, en faisant pas semblant qu'ils n'existent pas, mais en étant capable de dire, avec toutes mes cicatrices, Seigneur, je veux louer ton nom. Avec tout ce que je suis, mes imperfections, je veux louer ton nom. Je veux pas faire semblant d'être le chrétien parfait, que sa vie est parfaite tout le temps. Je veux venir et je veux venir louer le Seigneur avec toutes ces situations-là qui m'accompagnent. Et vous savez quoi? Lorsque vous laissez vos problèmes à la sortie de l'auditorium, Dieu peut pas rien faire pour ces problèmes-là parce qu'ils sont pas avec vous. Bon, il est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est lorsqu'on amène ça dans la louange que Dieu peut faire toute la différence. Parce que lorsqu'on est là avec ces situations-là et qu'on les présente au Seigneur, peut-être entre deux chants, peut-être dans un moment musical, peut-être à travers une phrase qui va sortir de votre bouche, on est en train de s'approcher de Dieu tel que nous sommes pour que Dieu puisse nous faire sortir de ce lieu différent de ce qu'on était. Parce que c'est Lui qui guérit, c'est Lui qui fait les actes extraordinaires dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin? Il n'y a rien comme une personne authentique qui s'approche de Dieu, qui est consciente de ses faiblesses et qui dit, « Seigneur, malgré tout ça, je décide de te louer parce que tu es le seul qui mérite cette louange. » Je veux te louer avec ma voix qui sonne pas bien. Je veux louer avec mes battements de mains qui, des fois, sont pas dans le rythme. Je veux te louer avec mes mains qui peuvent pas être d'un air plus que 10 secondes parce que je fatigue. Je veux te louer avec tout ce que j'ai, peu importe mes imperfections. Amen. Amen. On va relire ce texte-là. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Sam, j'espère que tu as compris. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin?